Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes aujourd'hui, je sais même pas quel jour on est d'ailleurs. On est quel jour ? Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 23 mars 2024 et les marchés sont toujours en super forme malgré une semaine émaillée par pas mal de news au niveau des banques centrales qui auraient pu, selon l'interprétation qu'on aurait voulu en faire, mettre un petit peu mal à l'aise le marché, mais non, que nenni, nous sommes toujours dans notre optimisme exacerbé, dans notre conviction qu'il n'y a qu'une seule direction, la hausse, et donc ce qui fait que ça se termine plutôt pas mal. Alors c'est pas l'euphorie, hein, bien sûr, mais ça continue de monter gentiment, parce que finalement on sait pas trop ce qu'il y aurait comme autre alternative. Donc aujourd'hui, encore une très bonne semaine boursière, on est complètement rassuré pour l'instant, par rapport à la suite des événements, puisque a priori on sait quand c'est que les taux vont baisser, en tous les cas aux États-Unis, puisque en Suisse c'est déjà fait, ça a déjà commencé à baisser. Mais globalement, eh bien, on est plutôt rassuré pour la suite, on est confiant et tout a l'air de se passer plutôt pas mal. Alors pour l'instant, bah on est un peu dans cette zone de fin de mois où il y aura pas grand chose à voir. Ensuite, on va se retaper les non-farm payrolls et le cycle des CPI et consorts. Là, il y aura aussi le PCE qui va arriver. Donc tout ça va nous donner un petit peu de gras pour de nouveau faire des scénarios. Aujourd'hui, on est convaincu qu'on baissera les taux en juin. Donc du coup, on peut construire par rapport à ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, chiffres économiques, cycle mensuel des chiffres économiques qui vont recommencer ces prochains temps. Et puis, à partir de début avril, après le week-end de Pâques, on va commencer à reparler publication trimestrielle. Et puis là, ce sera pas forcément une question de savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Ce sera une question de savoir où est-ce qu'on a placé la barre. Est-ce qu'on a placé la barre trop haut ou pas assez haut? Et en fonction de ça, on pourra commencer à avancer. Néanmoins, tout a l'air de se passer pour le bien. Jusque-là, tout va bien, c'est un peu comme le mec qui tombe du 50e étage, hein. Chaque fois qu'il passe devant un étage, jusque-là, ça va. Alors on commence tout de suite avec notre point de situation hebdomadaire habituel. Alors, grosso modo, on va pas non plus perdre de temps sur le sujet de la Fed, je crois qu'on a largement assez abordé le sujet durant tous les morning bulls de la semaine, plus ou moins. Grosso modo, et pour faire simple, les taux n'ont pas changé aux États-Unis. Monsieur Powell a montré via le dot plot chart que grosso modo, il baisserait les taux 3 fois cette année. Pour l'instant, c'est ce que la Fed attend, s'attend à faire durant les prochains mois. Et puis, les experts en ont tiré des interpolations et en sont arrivés à la conclusion qu'ils baisseront les taux au mois de juin. Ça, c'est pour la Fed. À l'intérieur de ce qu'ils ont déclaré, il y avait quand même 2-3 choses dont il faudra se méfier, mais c'est le fait qu'il faut vraiment que l'emploi commence à ralentir et il faudrait vraiment que l'inflation retourne en direction des 2%. Ces deux points-là restent les points centraux qui préoccupent la Fed, mais pour l'instant, ça ne préoccupe pas les marchés. Ça, c'était pour le sujet de la Fed, mais il n'y avait pas que la Fed qui parlait cette semaine, puisque le gros événement de la semaine aura donc été la Banque du Japon qui a passé ses taux, hein, qui a remonté ses taux. Donc pour la première fois depuis 17 ans, il repasse en terrain positif. Alors, dorénavant, le taux directeur de la BOJ s'inscrit entre 0 et 0,1%. C'est pas la folie, hein. Faut pas transférer votre épargne au Japon juste pour aller récupérer ces 0,1% sur les taux directeurs de la banque japonaise. Avant, on était entre moins 0,1 et 0. Et là, clairement, on a monté les taux. Donc, la banque centrale japonaise passe en terrain positif et ça a été plutôt positif pour le Nikkei. Alors, on peut s'étonner en se disant, mais nous, on est contents parce que les taux vont baisser et eux, ils sont contents parce que les taux vont monter. On peut se poser des questions, mais c'est vrai qu'ils sont pas dans la même situation économique que nous. Et pour eux, ça veut aussi dire que cette espèce de marasme économique dans lequel ils sont depuis des années est en train de se nettoyer et de repartir à l'assaut de la hausse. Donc, pas mal d'optimisme de ce côté, du côté du Japon, en tous les cas. Dans le reste des banques centrales, on a eu la Banque d'Angleterre qui n'a rien fait mais qui est prête à baisser les taux quand il sera le moment de le faire. La Banque centrale norvégienne n'a rien fait non plus, mais par contre notre banque centrale à nous, la Banque nationale suisse, elle a donc décidé de baisser les taux. Alors on va dire surprise, pas surprise, certains étaient plutôt convaincus. J'aime beaucoup cette phrase qui a été dite par le CEO de la Banque cantonale vaudoise, Ferrer, qui déclarait que cette décision conforte l'adage selon lequel la Fed fait ce qu'elle doit La BCE fait ce qu'elle peut et la BNS fait ce qu'elle veut. Donc la BNS a fait ce qu'elle voulait cette semaine, donc elle a baissé les taux. Alors maintenant, les experts s'attendent à des nouvelles baisses de taux, encore deux cette année, pour ramener un taux directeur en direction des 0,75%. Alors c'est vrai qu'on dit la BNS a gagné son combat contre l'inflation. Bon, c'est, faut pas s'emballer non plus. L'inflation suisse était montée au top à quoi, 2,9. Là, on est redescendu à 1,9. C'est pas tout à fait les mêmes amplitudes que d'autres grands pays ou d'autres grandes régions du monde ont subi ces derniers temps à cause de la hausse de l'inflation. Mais néanmoins, la BNS peut dire qu'elle a gagné encore un combat de plus et donc elle a baissé les taux. Alors ça a eu des conséquences sur le franc suisse qui s'est pété la figure et donc forcément ça favorise les exportatrices, donc ça c'était plutôt positif. Donc la BNS quitte son combat contre l'inflation pour se recentrer sur son éternel combat contre le francfort. Autrement, il faudra encore noter en Suisse du côté macroéconomique, les ventes de montres étaient en baisse de 3,8%. Donc ça a mis un tout petit peu de pression sur les valeurs du luxe, on y reviendra tout à l'heure. Et puis le SECO a déclaré que les prédictions de croissance du PIB suisse étaient autour de 1,5% pour 2024. Et puis autrement, cette semaine aura vu également l'or toucher des plus hauts historiques, ça c'est assez important pour être signalé. On voit que de nouveau l'or est devenu la valeur refuge où tout le monde vient se planquer en ce moment, et c'est vrai que techniquement quand on voit où se trouve l'or aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il peut largement monter jusqu'à 2500 sans trop de problèmes ces prochains mois, surtout avec les tensions qu'on est en train de nous préparer à droite et à gauche. Je vous cite même pas encore le massacre qui a eu lieu à Moscou hier, qui devrait avoir des répercussions d'une manière ou d'une autre, peu importe qui sont les coupables, apparemment c'est l'État islamique, mais on n'imagine pas que Poutine va rester les bras croisés, donc les tensions risquent de reprendre de plus belle. Qui dit tension dit besoin de racheter de l'or, dit attention à la hausse du baril, baril qui est qui a rebaissé un tout petit peu cette semaine, mais qui termine quand même au-dessus des $80 sur le WTI, ce qui est suffisamment important pour être signalé quand même. Je reste convaincu que le baril va bien plus haut dans les prochains mois, et ça aura des répercussions, bien sûr, sur l'énergie, sur l'inflation et sur les réactions des banques centrales à venir. Ça, c'est mon opinion perso. Mais en tout cas, techniquement, quand je regarde la configuration du baril, la configuration de l'or, on a l'impression que les deux, ils ont pas terminé de monter. Et puis, puisqu'on parle de trucs qui sont en train de monter, il faut aussi pas oublier qu'il y a certaines matières premières, pour ne pas citer le cacao, qui n'arrête plus de monter. Bon, moi, je m'en fous, j'ai arrêté le chocolat depuis hier soir. Mais en tous les cas, ça n'arrête pas de monter du côté du cacao. Et ça aussi, eh bien, c'est pas forcément évident, même si c'est pas une matière première qui est absolument nécessaire pour vivre ou pour survivre. Enfin, pour nous, en Suisse, c'est un peu différent. Mais c'est clair que ça reste quand même quelque chose d'assez important. Et c'est spectaculaire en termes de pourcentage, la hausse que le cacao nous a offert ces derniers temps. Autrement, pour le reste, eh bien, aux États-Unis, Nvidia termine la semaine au plus haut de tous les temps. Apple est au plus mal avec ses histoires d'antitrust. Ça, c'est un sujet qu'on abordera encore ces prochains temps, bien évidemment. Et puis, il faudra aussi retenir une chose dont on parle très peu parce qu'on est vraiment en mode toujours très, très positif. C'est l'endettement américain. Alors, la semaine dernière, eh bien, ils ont approuvé un nouveau spending bill, un budget à dépenser de 1200 milliards de dollars. C'est assez facile. Bah voilà, 1200 milliards. Tiens, prends, vas-y, serre-toi. Donc, ils ont signé un nouveau spending bill de 1200 milliards, comme si ça coûtait rien. Les 100 derniers jours, il faut quand même se souvenir que tous les 100 jours, la dette américaine augmente de 1000 milliards. Hein. Vous savez que depuis qu'ils ont fait sauter le plafond de la dette, eh bien, c'est vraiment plus un problème. On est à 30, on devrait normalement, si on continue à ce rythme-là, arriver à 36 000 milliards de dettes d'ici la fin de l'année. L'année fiscale 2024, donc ça laissera du boulot et des grosses interrogations pour le futur président américain qui prendra ses fonctions fin janvier 2025. Et à partir de là, il devrait évidemment reparler du plafond de la dette, mais pour l'instant, on s'en fout, donc on tape dans la caisse comme si ça coûtait rien. Et au passage, on balancera comme ça que l'endettement via les cartes de crédit aux États-Unis a atteint un nouveau plus haut historique la semaine dernière, donc les gens sont de plus en plus endettés. Le remboursement moyen de cartes de crédit ne cesse d'augmenter parce que les taux d'intérêt des crédits, alors autant les taux ne montent plus selon la Fed, autant les marchands de cartes de crédit, eux, ils n'ont pas de problème à continuer à monter les taux puisqu'on a un taux moyen sur l'endettement de la carte de crédit qui frise les 25%. Mais là, encore une fois, on s'en fout. L'endettement moyen aujourd'hui aux États-Unis est de 8 000 $ sur chaque carte de crédit. Moyen, bien sûr. On voit aussi pas mal d'articles d'Américains qui vivent avec leur carte de crédit parce que le reste ne suffit plus pour fonctionner. Mais ça, c'est encore une autre histoire. C'est pas les choses qu'on regarde pour l'instant, mais il faut quand même le savoir. Et puis, on terminera ce petit point, ce tour d'horizon aussi avec les déclarations, deux déclarations qui ont eu lieu ces dernières 24 heures. Tout d'abord, monsieur John Osman, qui est un gourou de la finance, encore un, qui a déclaré hier tout benoîtement, tout simplement, que selon lui, quand il regarde les valorisations des marchés, le comportement des marchés, la manière de réagir des marchés, pour lui, on est dans un délire total et que selon lui, on est en train de se préparer à un truc qui devrait ressembler plus ou moins au crash de 1929. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en général, les crashs annoncés, ça n'arrive pas. Donc à partir de là, on est plutôt serein, mais il faudra quand même le savoir. Et puis, le bon mot de la semaine, c'est Madame Katie Wood qui a déclaré hier, je crois, ou il y a cette nuit, je sais pas. Enfin, en gros, elle a déclaré que le Bitcoin irait à 3,8 millions. Alors, si le Bitcoin il va à 3,8 millions, j'imagine qu'il y a quand même quelques personnes qui vont rapidement arrêter de travailler. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les événements de la semaine. Et maintenant, on fait un tour sur les performances de la semaine. Alors, vous le voyez, comme je le disais tout à l'heure, le Nikkei est en tête de pont cette semaine. Le Dow Jones des transports en hausse de 3%. Le Semiconductor Index qui a bondi 3,17%. Le Nasdaq qui termine au plus haut de tous les temps avec une hausse de 2,85%. Le S&P 500 qui n'est pas loin du plus haut de tous les temps avec une hausse de 2,3%. Donc, vous voyez que ça rigole plutôt pas mal. Et puis, alors, en Europe, eh bien, le DAX qui continue 1,54% de hausse, et puis l'or, plus 0,23%, mais qui a touché des plus hauts historiques, et le CAC 40 qui baisse de 0,15%. Alors, le CAC 40 baisse de 0,15%, c'est assez important pour être signalé, puisque la France ne fait que de monter depuis quelques mois, et là, il y a eu comme une panne sur le luxe, on va y revenir tout à l'heure, mais donc c'est pour ça que la France est légèrement en baisse, tout comme la Suisse en baisse de 0,21%. L'annonce de la baisse des taux de la BNS n'a pas forcément généré le bull market attendu sur le SMI. En tous les cas, Shanghai et Hong Kong, on se replie un peu cette semaine parce qu'on a l'impression que pour l'instant, les stimulus qui ont été mis en place par le gouvernement chinois n'ont d'effet que lorsqu'ils les annoncent dans les 24 heures ou 48 heures qui suivent, mais il n'y a rien d'impactant sur l'économie derrière. Donc pour l'instant, on reste un petit peu timide. Et puis, le Bitcoin qui continue de sciller entre 60 000 et 66 000, mais c'est plus une embuscade. Il est en train de créer sa base pour aller chercher beaucoup plus haut, puisque là aussi, on sait que tout le monde est méga bullish et que c'est plus une option de voir monter le Bitcoin, bien sûr. Si on regarde la performance du SMI, enfin des membres du SMI, Lonza en tête de pont après ce qu'ils ont accepté, le deal qui a été signé, je vais y revenir tout à l'heure. Et puis autrement, de l'autre côté, Richemont en baisse de 8%, et ça c'est à cause du luxe. On va y revenir, Logitech qui perd 3,35% après le départ surprise de son CEO. Roche qui perd 2,38% après avoir déjà baissé la semaine dernière à cause de son dividende, mais cette fois il baisse parce que Chugai a foiré un de leurs médicaments. Ça leur appartient, hein, Chugai, et Chugai a foiré un de ses médicaments, donc résultat, un peu de pression sur Roche également. Et puis, pour le reste, c'est plutôt une semaine relativement calme, un peu à l'image du SMI qui aussi paisiblement en baisse de 0,2%. Donc, c'est pas une très, très grosse semaine sur l'indice, ni sur ses composants d'ailleurs. Ce qui nous amène gentiment à notre point technique de la semaine. Alors, ça se passe de commentaires sur le S&P 500, puisque vous voyez qu'on est dans notre canal haussier, que ça monte, et que pour l'instant, tant qu'on ne sort pas de ce canal, il n'y a pas grand-chose à se poser comme question. La seule chose qu'il faudra surveiller quand même, c'est qu'on a notre RSI qui est quand même relativement élevé. Bon, il a déjà été plus élevé, ça ne nous a pas empêché de monter, mais grosso modo, on est quand même en train de se maintenir à des niveaux très très élevés, et à un moment donné, il pourrait y avoir peut-être un ras-le-bol. Puis alors, notre SMI, notre bon vieux SMI, alors on va revenir. On est dans notre canal haussier, hein, donc ça n'a pas changé évidemment depuis la semaine dernière. Notre grand canal haussier est toujours vivant. Nous, on essaie de décoller gentiment. Pour l'instant, c'est difficile, hein. Vous voyez qu'on a eu une semaine dernière qui était pourrie, puis maintenant, on essaie de faire quelque chose, mais ça merdouille. Et même les annonces de la BNS, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas forcément généré un engouement délirant sur le SMI. Donc, c'est une semaine qui a pas fait grand chose, hein. En haut, en bas, puis finalement, on termine plus ou moins là où on avait commencé. Donc, petite semaine sur le SMI. Ce qu'il faut retenir, c'est que, on est quand même bien établi en dessus de notre moyenne mobile des 50 jours en vert ici. et de notre moyenne mobile des 200 jours qui est là. Donc on voit qu'il y a un écartement, ce qui est plutôt bullish, parce que là on a eu bien sûr notre Golden Cross sur le SMI il y a quelques temps, donc plutôt optimiste pour l'instant, mais optimiste tranquille, hein, père de famille quand même. Alors vous voyez le CAC, comme je vous l'ai dit, pour la première fois depuis quelques temps, on est en baisse. On voit qu'on est en train de, excusez-moi du terme, on est en train de merdouiller là en fait à 8150, ça devient compliqué de sortir dans une direction ou dans un autre. Alors la bonne nouvelle là aussi, c'est que la moyenne mobile des 50 jours et des 200 jours, elle pointe vers la hausse, donc ça va. Par contre, alors regardez les indices de surachat, alors là clairement, on arrive à des niveaux où chaque fois qu'on est allé par là, vous voyez, ça correspond à ce pic là, on a une petite correction derrière. Et donc là, on pourrait logiquement s'attendre aussi à avoir une petite correction derrière et qu'il y ait un retour sur la moyenne, dans un premier temps, sur la moyenne mobile des 50 jours. Ça ferait de mal à personne, vu le niveau de surachat et le niveau d'engouement général dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Le Nasdaq qui termine au plus haut historique et qui réintègre, enfin on va dire, qui essaye, ouais, difficile à dire, mais le Nasdaq essaie de réintégrer cette tendance haussière qu'on peut aller ajuster. Ouais, voilà. On va dire ça. Le Nasdaq est donc dans sa tendance haussière. On termine à ces niveaux-là, au plus haut de tous les temps sur le Nasdaq. Hein. La clôture, en tout cas, la clôture ici est au plus haut de tous les temps. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et notre ami le SOX, qui a plus ou moins le même type de comportement. Alors notre ami le SOX, il est bien évidemment drivé par les mouvements des semi-conducteurs. Alors la semaine dernière, on a eu des événements assez particuliers sur Micron, qui a annoncé qu'ils allaient vraiment bénéficier à fond de l'intelligence artificielle, hein, c'est une surprise pour personne. Mais voilà, donc le titre a explosé, donc ça a bien aidé le SOX. Et puis Nvidia qui termine au plus haut de tous les temps également en fin de semaine. Alors là, je crois qu'il y a eu un upgrade récemment qui a été fait par l'UBS, ce Ferrer. C'est pour ça que ça a généré le petit push à la hausse en fin de semaine. Mais vous voyez que Nvidia revient au plus haut de tous les temps malgré ces quelques hésitations dans lesquelles nous étions depuis quelques jours. Nous sommes toujours. Idéalement, il faudrait qu'on arrive à redépasser ces niveaux plus hauts historiques, à quasiment aller passer au-dessus des 1000 pour qu'on puisse commencer à rigoler vraiment sur Nvidia, parce que tout le monde est évidemment méga bullish sur le sujet de l'intelligence artificielle, et on l'a vu encore cette semaine, ça marche très très bien en termes de motivation sur les indices. Vous voyez l'or qui est allé chercher ses plus hauts historiques à 2222 ici. Vous voyez le pétrole qui est dans un canal haussier ascendant sans trop de problèmes pour l'instant. Gros support sur la zone des 78, peut-être qu'on va revenir faire un truc comme ça, mais pour moi, comme je vous l'ai dit, la suite est en haut. Et puis, le Bitcoin de Madame Katie Wood qui devrait remonter à 3,8 millions. Alors, malheureusement, je sais pas si sur mon chart, on arrive. Non, on n'arrive pas, je suis même pas. Certainement, mais ça veut plus rien dire. Voilà, 9,4, voilà. Donc le target de Madame Katie Wood, si on le prend sur le Bitcoin, c'est juste pour rire, hein. Si on prend aujourd'hui 60 000 balles, à peu de choses près, c'est impossible à pointer, là, 60 000, bam, 3,8 millions, ça nous fait monter jusque là, voilà, 6500% de hausse attendue sur le Bitcoin. Alors je vous laisse aller vendre l'appareil dentaire du petit pour pouvoir acheter du Bitcoin pour ces prochaines années. Par contre, je ne crois pas qu'elle ait précisé une notion de temps. On espère que ce sera d'ici les 15 prochains jours. Comme ça, au moins, ça nous occupera un petit peu. Dans les vedettes de la semaine, je vous montrerai pas le chart parce que ça sert à rien. De toute façon, on citera Meyer Burger qui a obtenu son autorisation pour l'augmentation de capital. Donc le titre rebondissait, mais en fait, quand on rebondit de nulle part, qu'on est posé sur le sol, c'est pas non plus hyper spectaculaire. Mais il faut quand même noter que Meyer Burger a obtenu son autorisation de faire son augmentation de capital, donc de l'espoir au niveau des panneaux solaires quand même, un tout petit peu, mais de l'espoir quand même. Lonza a annoncé qu'il rachetait alors le site de production de traitement biologique de Roche aux États-Unis en Californie pour 1,2 milliard de dollars. Et puis il rajoute encore 500 millions de plus pour pouvoir restructurer les infrastructures. Les deux sociétés se sont mis d'accord, ils ont publié un communiqué de presse chacun séparément. Grosso modo, bonne nouvelle, le marché a extrêmement bien pris la nouvelle, puis c'est un beau développement pour Lonza. Et donc ça s'est relativement bien passé, d'où le fait que Lonza, c'est la meilleure performance de la semaine du SMI. Vous le voyez, ça se passe de commentaires, hein, un chart qui était tombé dans l'oubli. Vous voyez qu'on avait cette grande zone qu'on devait pas casser, qu'on a été cassé. On était chercher les plus bas sur Lonza par là autour. Et puis depuis, après ce double bottom à 320, on est en train de se reconstruire. Alors quand même spectaculaire. On laisse des gaps dans tous les sens. Donc ça, c'est un gros problème quand même. Mais bon, à suivre. Et puis vous voyez que l'annonce de cette semaine a quand même fait exploser le titre. Mais attention, attention, on arrive à des niveaux de surachat quand même assez importants. Parlons du luxe. En Suisse, on a quand même un peu influencé par la thématique du luxe. Le luxe a été le gros performer de ce début d'année, on le sait. La Chine qui n'était pas complètement morte, mais néanmoins, on l'a vu sur les ventes des montres récemment. Je l'ai cité au début de l'émission, que finalement, eh bien, c'était pas terrible. Et qu'il y avait un petit peu un glissement, hein, 3,8% de baisse sur les ventes de montres, à cause de la Chine, bien sûr, hein, ça, c'est la raison de tous les problèmes. La Chine, pour le luxe en tous les cas, la Chine c'est l'indicateur, hein. Si ça va mal, le luxe il baisse, ça va bien, le luxe il monte. Alors donc, cette semaine, eh ben, mauvaise semaine, hein, donc d'abord cette histoire de montres, deuxièmement, le profit warning de Kering, on en a parlé cette semaine. Alors le profit warning de Kering, c'est assez monstrueux, hein. Ils ont quand même annoncé une baisse du chiffre d'affaires qui risque d'être spectaculaire. On parle de 10% de baisse du chiffre d'affaires, 20% de baisse chez Gucci. Gucci qui représente 50% du chiffre d'affaires de Kering. Manque de diversification chez Kering, mais on voit quand même que c'est pas uniquement Gucci. Oui, d'accord, ce que fait Gucci, c'est moche, mais je veux dire, c'est le reste aussi qui fait que les gens dépensent moins dans le luxe, et surtout les Chinois, oui, encore eux, c'est de leur faute. Eh bien, ça a mis la pression sur, bien évidemment, tout le secteur. Alors, en fin de semaine, il y a eu des déclarations positives de la part de Nick Hayek pour le développement de Swatch, qui a un peu sauvé la mise, entre guillemets, mais l'un dans l'autre, c'était une sale semaine sur le luxe en général, donc évidemment, Richemont est au fond du bac sur les performances du SMI, et Swatch n'est pas loin non plus. Alors, Richemont, voilà Richemont. Donc ça se passe de commentaires, hein, vous voyez la semaine. Quand je vois ce que Richemont nous fait depuis les 150 balles pour revenir sur les 134, et que je vois que l'annonce est venue en milieu de semaine, l'annonce de Kering entre autres, j'ai l'impression quand même, par moment, qu'il y a des gens qui doivent être mieux informés que les autres. Enfin bref, Richemont est revenu se poser sur la moyenne mobile des 50 jours, c'est ce qu'il faudra surveiller ces prochains temps. On voit que ça a bien calmé les RSI, on a l'impression qu'elle pourrait presque aller quand même là en bas, chercher les 126 sur la moyenne des 200, pour retrouver un peu d'énergie et remonter ensuite par la suite. Voilà, il n'y a pas de problème fondamental. Et Richemont n'a pas fait de profit warning contrairement à Kering, mais voilà, elle a un peu pêché parce qu'elle fait partie du même secteur. Elle a profité des rebonds ces derniers temps dans la même thématique, pardon. Donc il n'y a pas de raison qu'elle ne prenne pas une claque quand les autres prennent une claque. Alors Swatch, ouais. Bon Swatch, ils ont quand même moins profité du rebond du secteur du luxe, mais ils ont quand même pris avec les autres l'autre jour quand ça a baissé, hein. Donc vous voyez que pour l'instant le graphe de Swatch il ressemble à rien. La seule chose de positive pour l'instant, c'est qu'on consolide sur ce niveau-là, sur les 200. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas un réveil pour construire quelque chose dans ce sens-là, et avec l'impression que les deux moyennes mobiles ont changé d'orientation, j'ai l'impression qu'il faut pas non plus se précipiter sur la thématique de Swatch. Et puis alors, juste pour la bonne bouche, alors vous voyez aussi, hein, faut comparer ce qui est comparable. Hein. Là, vous avez Kering qui se fait démonter, évidemment sur l'annonce de l'autre jour. Dans le trou ici est évidemment spectaculaire, on revient au plus bas, des plus bas. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'effectivement, ça a fait du mal au luxe la semaine dernière, mais que Kering est extrêmement centré sur Gucci, on l'a dit, hein, c'est 50% de leurs revenus, donc ça reste quand même vachement plus exposé que notre maître à tous, qui eux sont beaucoup moins exposés sur une seule marque, LVMH, qui eux ont baissé soit, bien évidemment, en sympathie, mais globalement qui s'en sortent beaucoup mieux que les autres par rapport à un Kering. Donc il faudra aussi faire attention à ce genre de choses. Et vous voyez qu'Hermès, au contraire, eux, ils ont même pas baissé, ou pratiquement pas baissé. Pourtant, eux, ils sont quand même vachement exposés sur leur propre marque aussi. Mais enfin, voilà, donc tout ce qu'il faut retenir, c'est que Hermès est quand même vachement haut aussi, hein, vous voyez, que les RSI sont super élevés également. Franchement, si les prochains jours Hermès baissait un petit peu, ça ferait de mal à personne, à mon sens. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu une IPO qui a fait beaucoup parler d'elle aux États-Unis. C'était l'IPO de Reddit, qui a littéralement explosé lors du premier jour de trading et qui remet un peu sur la table le fait que le retour des IPO, c'est génial. Alors, c'est à double tranchant. On dit qu'on est très haut. On dit que les valorisations sont étendues. On commence à nous sortir des IPO toutes complètement débiles, plus débiles les unes que les autres, avec des boîtes qui perdent du fric comme Reddit. Et elles explosent quand même. C'est aussi des signaux d'alarme. Enfin, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on préfère voir le verre à moitié plein, les bonnes nouvelles, plutôt que les choses qui sont un peu dangereuses. Moi, je suis aussi là pour vous les montrer aussi, les choses qui sont un peu méfiantes. Néanmoins, IPO de Reddit, gros succès. Mais en Suisse, on a aussi eu une autre IPO qui a eu un gros succès. Galderma. Qui est une boîte qui fait donc des soins pour la peau, hein. Je connaissais pas, pour être très franc. Et grosso modo, offre de 2 milliards de francs suisses, avec un gros flottant sur la bourse suisse. Et puis l'action a pris 18% pour le premier jour de trading. Donc voilà, c'est assez intéressant à signaler. Donc ça s'est bien passé pour le premier jour de trading de Galderma, nouvelle IPO sur le marché suisse, il va falloir se souvenir de ce nom-là. Dans les autres histoires de la semaine, vous le voyez sur le graphique ici, c'est Logitech qui a annoncé à la surprise générale le départ de son CFO. Donc en général, quand le gars qui s'occupe de l'argent s'en va, c'est jamais très bien pris, d'ailleurs le titre en a pris pour ses frais. Grosse correction durant la semaine, mais... À noter quand même que l'un dans l'autre, on revient plutôt à la hausse. Il faut noter que ces derniers temps, on avait eu 2-3 upgrades sur Logitech. Et donc l'un dans l'autre, on va dire qu'on n'est pas complètement déçu par le départ de ce CFO et que l'avenir est plutôt positif. Alors, il faudra faire attention parce que Logitech, on voit qu'elle est quand même relativement forte avec une bonne nouvelle comme ça. Donc, elle devrait probablement continuer à traiter là-dedans. Et puis, il faudra surveiller la zone des 84 pour quand elle risque de partir à la hausse. Parce que là, le jour où Logitech démarre à la hausse, on la connaît, quand elle veut y aller, elle y va, et puis ça reste une tech, hein. Il suffirait juste qu'ils lancent un truc lié à l'intelligence artificielle, ouh, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Le bon rush qui continue sa lente dépression nerveuse, on est revenu sur les points bas de 225, hein. ça veut pas, on a l'impression que chaque fois que ça essaie de remonter, le titre repart à la casse. Donc là, je vous l'ai dit, hein, y a une boîte qui leur appartient, Chugai, leur partenaire, qui a foiré un médicament. Donc du coup, ben voilà, ça a tapé sur Roche, plus le dividende de la semaine dernière. On est revenu sur les points bas. Il faudra quand même surveiller, hein, parce que si on casse encore une fois les 225, on ne sait pas jusqu'où ça va baisser. Mais là aussi, on aimerait bien qu'un jour ou l'autre, Rush commence à revenir. Alors, on sait que Rush est très cyclique, que par moment, c'est la vedette, et puis par moment, bah, c'est la dépression totale. Mais bah, pour l'instant, ça commence à durer un petit peu. Mais vous voyez qu'il y a quand même eu des périodes dans le passé où on a vécu ce genre de comportement. Là, typiquement, c'est en 2014, entre 2014 et 2018, où on a une boîte qui fout plus rien, avant tout d'un coup de se réveiller et de repartir fortement à la hausse. Il faut noter qu'on est sur les bas, hein, les bas du bon rush. Là aussi, quand on a redémarré, on était sur les mêmes niveaux, à peu de choses près, 225. Hein, vous voyez la coïncidence quand même. Non, là, c'était 225. On a été chercher les plus bas autour des 210. Et c'était reparti à ce moment-là. Il faut pas oublier non plus que bah, tout le monde a fait ses downgrades sur rush. Il y a plus personne qui est vraiment sur strong buy et on attend tous les résultats des dernières restructurations, ce qui fait que le jour où ça commencera à porter ses fruits, et je reste convaincu que ça portera ses fruits, on risque de repartir dans un cycle haussier. Et je termine avec le chart de Novartis, parce que je vous ai répété 287 fois qu'il fallait surveiller ce canal latéral dans lequel nous sommes et essayer de le traiter. Donc on est en train d'essayer de le chercher, hein. Sur les bas, vous voyez qu'on est allé l'autre jour à 83,5, 84,5. Les plus bas ici, c'est 83,5. Voilà, il y a un franc encore de patience, on va dire, mais pour ceux qui pensent que c'est toujours valable cette thématique, je pense qu'on peut commencer à mettre des billes dedans, petit à petit, pour jouer le nouveau rebond de Novartis en haut de ce range pour l'instant. Après, vous me direz, oui, mais si on casse, qu'est-ce qui va se passer? Bah, si on casse, on va aller chercher le bas ici, on va aller combler notre gap qu'on a laissé ici, et puis après, on pourra racheter de nouveau. Donc j'ai envie de dire pour ceux qui font du trading, moi je me positionnerai gentiment à la hausse. Si on casse les 82 à la baisse, ça voudra dire qu'on va aller probablement chercher plus bas. Donc à ce moment-là, il faudra vous couper et puis vous revenir vous positionner pour jouer bah, le grand support qu'on a là, qui tient depuis des années et des années. Voilà, donc on va continuer à surveiller attentivement Novartis ces prochains temps, mais ça reste à mon sens peut-être un truc à jouer ces prochains jours, surtout maintenant que les taux ont baissé en Suisse et qu'ils vont continuer à baisser jusqu'à la fin de l'année. Voilà ce que l'on pouvait raconter de cette semaine boursière qui aura été marquée par les banques centrales de tous bords. On va continuer dans cette direction, on va continuer à digérer les chiffres macro, à surveiller ce qui pourrait avoir une quelconque influence sur les décisions à venir des banquiers quartiers centraux. Et par rapport à ça, on va continuer à monter, puisque visiblement, c'est la seule direction qu'on connaît en ce moment. Voilà, donc beaucoup d'optimisme, beaucoup de confiance, peu de doutes sur le marché. Bah, c'est comme ça, ça arrive par moment, et puis comme disait l'autre, eh bien, il faut pas aller contre le vent, hein. Il faut pas se battre contre la tendance, parce que la tendance est ton ami jusqu'à que elle ne le soit plus. Voilà. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, bien sûr, à liker cette vidéo, à revenir me retrouver demain, non pas demain, parce que demain c'est dimanche, et demain je vais dormir quand même, mais je vous encourage à me retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, comme d'habitude, bien sûr. D'ici là, passez un excellent week-end, il paraît que c'est tout pourri dehors, mais bon, faut quand même passer par-dessus ça. On sent que le printemps se rapproche avec intensité de plus en plus, donc ça vient, les terrasses arrivent. Passez un excellent week-end quand même, et puis à la semaine prochaine. Bye bye.